Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Justin Moussa Opondi.
Hausse des prix des produits pétroliers, les opérateurs dans ces secteurs prennent acte du réajustement et attendent du gouvernement le paiement des arriérés afin de leur permettre de renouveler les stocks. Répondant à l'appel du chef de l'État à encourager la cohabitation entre communautés, l'Église du Christ au Congo encourage les Congolais à vivre ensemble tout en rappelant que la diversité est une force. Notre invité, c'est le professeur Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté de droit de l'UNIKIN. Il va s'exprimer sur le tribalisme et les discours de haine au regard de la loi. Bonjour et bon début de semaine à tous. Hausse des prix des produits pétroliers sur l'ensemble du pays. Le regroupement des sociétés pétrolières privées dit prendre acte de ce réajustement, même s'il n'est pas à la hauteur de leurs recommandations formulées au gouvernement. Cette réaction est du président de cette structure hier dimanche à Radio Okapi. Emerimba Chibopé dit espérer que le gouvernement va payer les arriérés des distributeurs des produits pétroliers afin de leur permettre de renouveler les stocks. Emerimba Chibopé a été joint par Alain Hirung.
Nous ne pouvons que nous réjouir parce que, au fait, ce qui était important pour nous, c'était de penser à trouver un équilibre dans les approvisionnements. Parce que, comme vous le savez, les paramètres que l'on prend en compte pour fixer les prix des produits pétroliers dans la distribution ont sensiblement changé avec l'évolution de la situation sur le plan mondial. En fait, c'est un réajustement. Ça permet peut-être d'atténuer un peu les pertes et les manques à gagner. Mais on n'a pas atteint les proportions que nous, on voulait. Bon, que voulez-vous ? C'est quand même un pas, la volonté est là. Ben, le gouvernement est pleinement responsable, il sait comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre autrement. Mais ce qui est vrai, c'est un réajustement des prix à la pompe où on a tenu compte aussi du pouvoir d'achat. J'espère bien que nous aurons peut-être une rencontre où nous allons maintenant voir quel est l'impact de ces réajustements et voir maintenant quelles seront les répercussions. Parce que nous, nous attendons aussi que rapidement, on puisse donner les moyens pour permettre à la profession de pouvoir refaire les stocks.
Direction le Kasaï oriental où la route nationale numéro 1 dans son tronçon Mbujimayi-Kamina et la nationale numéro 2 Mbujimayi-Bukavu seront réhabilitées et modernisées d'ici fin juillet 2022 par l'entreprise AM, une firme de souche allemande. Cette annonce a été faite à la gouverneure de la province du Kasaï oriental par le directeur général adjoint de cette entreprise, Philemon Sauveur Okulutila, en présence des responsables de l'office des routes. Après quelques études effectuées sur ces deux routes, le DGA de cette entreprise explique la nature des travaux qui seront effectués. Philemon Sauveur Kulutila, directeur général adjoint de l'entreprise AM, s'exprime au micro des journalistes accrédités au gouvernorat des provinces.
Concrètement, nous modernisons, ça veut dire que nous construisons des routes modernes et en l'occurrence, nous pensons avoir une route à quatre bandes. Deux bandes allées, deux bandes retour et asphaltées évidemment. Comme je le disais à Madame le Gouverneur, pour se rassurer que la route va tenir longtemps, nous y mettons une couche de béton sur l'asphaltage. Un projet, c'est un processus qui commence par ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la visite de la route et après ce sont les études et la signature des contrats d'exécution et puis l'exécution. Évidemment, je suis très heureux de la réceptivité de l'autorité pour notre projet et surtout de la garantie de soutien qu'elle nous a donnée.
La société civile de la RDC, dans sa diversité, recommande au chef de l'État la poursuite du processus de récupération de tous les actifs auprès des projets miniers, pétroliers et forestiers jugés déséquilibrés. Cette déclaration devant la presse samedi à Kinshasa intervient après les travaux de la table ronde du 13 au 14 avril 2022, organisée par la présidence de la République sur la restitution des actifs miniers et pétroliers par le groupe Ventura de Dan Gettler à la RDC. La société civile rappelle l'impérieuse nécessité de ne plus favoriser de nouveaux mécanismes de spoliation et de bradage du patrimoine congolais par des étrangers ou des nationaux bénéficiant d'une couverture du pouvoir judiciaire, politique, sécuritaire, administratif et diplomatique. Écoutez à ces sujets le professeur Florimond Mouteba, président de l'Observatoire de la dépense publique, parlant au nom de la société civile dans sa diversité. Ses propos sont recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Tenant compte de l'impérieuse nécessité de revisiter tous les contrats et transactions économiques du secteur extractif en vue de nous assurer qu'ils ont été conclus dans l'intérêt de la RDC, ayant constaté que plusieurs actifs miniers, pétroliers et forestiers de la RDC avaient été et sont octroyés de manière déséquilibrée, rappelant l'impérieuse nécessité de ne plus favoriser de nouveaux mécanismes de spoliation et de bradage du patrimoine minier, forestier, pétrolier ou autre, nous apprécions et encourageons l'ouverture de la présidente de la République a communiqué sur l'accord du règlement à l'amiable avec le groupe 23 par l'organisation de la présente table ronde. Recommandons au président de la République la poursuite de ce processus auprès des autres projets miniers, pétroliers et forestiers jugés déséquilibrés, dont ceux cités dans le rapport du groupe d'experts de l'ONU de 2002 et les cas de Tengue, Fumurume Mining, Banro, Sicomine, etc. L'examen minutieux des cas soupçonnés de bradage tels que AGN Ressources, Sukimo, Congo Ressources, Sakima, Daïde, Sicomine, Chemaf, MMG, etc.
En signé cette déclaration, les structures membres des confessions religieuses, le collectif des organisations du contrôle citoyen des finances publiques, des organisations féminines, des organisations de lutte contre la corruption, des mouvements citoyens, des associations évoluant dans les secteurs des ressources naturelles et autres dédiées à l'éducation civique. Montée du discours de haine et du tribalisme dans la sphère publique depuis un certain temps en RDC, le président de la République invite les leaders politiques, religieux et socioculturels ainsi que tous les Congolais à privilégier la cohabitation pacifique entre les communautés. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit vendredi au cours de la 49e réunion du Conseil des ministres. Répondant à cet appel du chef de l'État, le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, ECC, encourage les Congolais à vivre ensemble, car la diversité, dit-il, est une force. On écoute pasteur Eric Senga, joint par Pierrot et Lamégie.
Si nous sommes aujourd'hui un seul peuple, cela relève de la souveraineté de Dieu. Donc le vivre ensemble dépasse notre volonté en tant qu'individu. Peu importe nos différences de culture, de langue, de tribu ou même d'intérêts politiques, mais nous sommes toujours et déjà appelés à vivre avec l'autre parce que l'autre est l'image de Dieu en physique parmi nous. La deuxième des choses, c'est de savoir que la divergence d'opinion ne devrait pas constituer la raison d'une division en tant que nation, puisqu'en fait, c'est dans la différence qu'on s'identifie. On est nombreux, on est différents à certains égards, mais chacun de nous doit comprendre que nous n'avons que ces pays comme héritage commun, et nous n'avons que cette nation comme les lieux qui nous déterminent en tant que peuple. Peu importe celui qui est au pouvoir, peu importe celui qui est dans l'opposition, mais nous restons tous fondés sur la raison d'exister en tant que peuple. Évitons les discours de haine, évitons les discours de révolte.
Le professeur Jean-Louis Sambo appelle surtout les politiciens congolais à bannir les discours de haine et le tribalisme. Le doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa l'a dit hier dans une interview exclusive à Radio Okapi. Il dit remarquer qu'à l'approche des échéances électorales, certains politiciens agitent cette fibre sensible au lieu de se concentrer sur le débat des idées pour développer le pays. Cet ancien juge à la Cour constitutionnelle attire leur attention car au-delà des juridictions nationales, indique-t-il, la Cour pénale international aussi peut s'en saisir. Le professeur Jean-Louis Sambo, actuellement juge au Conseil d'État, a été joint par Alain Hirung.
Je voudrais d'abord m'adresser aux politiciens. Il n'est pas acquis au départ que l'appartenance à une tribu ou l'usage d'un discours tribal soit une garantie pour accéder aux fonctions publiques ou aux mandats électifs. Donc cela n'est pas un acquis. Et donc pour moi, il va falloir que le débat politique soit un débat loyal, soit un débat équilibré, soit un débat qui tienne compte de sa position, mais aussi la position des autres, parce que vos droits s'arrêtent là où commence le droit des autres. Ça ne sert à rien d'inciter les gens à la haine tribal, ça ne sert à rien d'inciter les gens à la xénophobie. Et même si notre arsenal juridique paraissait insuffisant pour réprimer ces actes-là, ce sont des actes qui sont réprimés par la justice internationale, notamment la Cour pénale internationale. Donc, les gens qui se livrent à ce genre d'actes, ils ne se rendent pas compte que même si on peut avoir des difficultés au niveau interne de pouvoir les poursuivre, mais sur le plan international, ils sont dans une situation fragile qui peuvent les amener à des situations qui ne seraient peut-être pas souhaitables. Donc, il est important qu'on bannisse ce discours de haine tribale, de stigmatisation tribale.
Le professeur Jean-Louis Sambo est l'invité de ce journal à suivre sous peu. Rendons-nous au Nord Kivu. La mesure prise par le maire intérimaire de Butembo exigeant un contrôle systématique dans les entrées des lieux publics, particulièrement le jour de Pâques, afin de parer à toute éventualité sécuritaire, a été relativement suivie. Selon le constat fait sur terrain par notre reporter, si dans certaines églises l'on fouillait des sacs des fidèles avant d'entrer, cela n'a pas été le cas dans d'autres et même dans les marchés. Toutefois, des agents de sécurité ont été déployés dans plusieurs lieux de grande affluence. C'est à la suite de l'alerte lancée par l'autorité urbaine sur des menaces sécuritaires d'attentats à la bombe qui pèsent sur la ville. Cependant, la situation de la ville reste généralement calme. Grâce à Mzati pour le reportage.
À la cathédrale Mater Ecclesiae, où nous avons commencé notre tournée, dès la grande porte d'entrée de l'enceinte de l'église, le service de sécurité fouille les poches et les sacs des fidèles. Après avoir été contrôlé, Joseph Mouindo Clovis, la trentaine, s'est dit rassuré de prier en toute quiétude.
De ma part, c'est normal d'abord parce que nous sommes dans un milieu qui n'est pas sécurisé. Si on contrôle quelqu'un, vraiment, c'est pour sécuriser tout le monde. Nous sommes rassurés. Parce que les infiltrés ne peuvent plus entrer.
Même constat dans les églises, membres de l'ECC, Église du Christ au Congo, où les fidèles affirment avoir été sensibilisés par leur évêque. C'est le cas de l'église anglicane où nous avons rencontré Eric à la sortie du culte. Il dit avoir prié sans aucun doute.
On fouillait les sacs des chrétiens pour entrer à la messe. J'étais d'abord content parce que c'est pour mon sécurisation. Nous sommes sensibilisés par l'évêque. Il nous a dit qu'avant d'entrer à l'église, il faut voir les gens qui entrent dans l'église s'il n'y a pas les bombes là dans les sacs.
Certains chrétiens nous ont laissé entendre qu'ils ont préféré prier à l'extérieur de l'église par peur d'être victimes d'une attaque. Au marché central, tout comme dans d'autres églises, aucun contrôle systématique ne se faisait, mais l'on a constaté la présence des agents de sécurité. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Dans le territoire de Rutshuru, un retour progressif des déplacés s'observe ces derniers temps dans la région de Djomba. Des sources concordantes dans la région le confirment. La société civile indique quant à elle qu'au moins 50% de la population qui s'est réfugiée vers Rutshuru Centre et en Ouganda sont déjà de retour. Les activités socio-économiques reprennent petit à petit, mais la psychose règne toujours malgré ce calme apparent. Bernardine Diambou.
Des sources concordantes dans la zone confirment ces retraits progressifs des déplacés qui avaient trouvé refuge à Rutshuru Centre et en Ouganda. Selon ces sources, chaque jour depuis les milliers de la semaine, des files de ménages sont observés en train de retourner dans leur milieu d'origine, notamment à Chingerero, Jomba, Cheya, Bunagana, Rangira, Rwanguba et Matebe. D'ailleurs, poursuit notre source, quelques activités commerciales et champêtres ont repris dans ces milieux sécurisés du reste par l'armée régulière. Toutefois, certaines familles hésitent encore à retourner, n'étant pas rassurées par ce calme apparent qui s'observe dans la région 7 jours après les retraits volontaires du M23. La société civile dans la zone, quant à elle, indique qu'une psychose règne toujours dans la zone malgré ces retraits. Cette psychose se justifie du fait que les rebelles du M23 ne sont toujours pas neutralisés. Selon cette source, ces rebelles occuperaient encore des collègues stratégiques comme Bugusa, Bushari, Tchanju et Runyoni. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Au Maniema, 6 ans après que la toiture de l'épée Mukombe soit emportée par un vent violent, les élèves de cette école étudient toujours à même le sol, et cela dans des églises notamment. Cette école publique se trouve dans les groupements Nsangé, à 33 km de Kalima, dans les territoires de Pangui. Le chef de secteur de BEA, Jules Suédi, a doté cette école des matériaux de construction. Le deuxième vice-président du comité local de développement du secteur, qui a réceptionné ce don, plaide pour la participation de la population à la fabrication des briques et au gouvernement de leur doter des bancs pupitres. Mohamedi Moutindo Michel le dit à Florence Kiza.
Ça fait plus de 6 ans que le vent a emporté la toiture de cette école. Et de tous ces temps, les élèves étudiaient un peu partout, dans des églises locales et d'autres étudiaient dans des maisons des particuliers. Et ça faisait mal puisque ça diminuait les niveaux des connaissances et les enseignements n'étaient pas vraiment à la qualité qu'il fallait. Nous remercions d'abord le chef de secteur pour nous avoir donné ce matériau de construction constitué de 100 tôles, 100 madriers, 100 chevrons, plus 50 kilos de clous pour fixer la toiture de l'épée Mukombe. Nous demandons à la population maintenant de pouvoir donner une participation l'administration locale, c'est-à-dire en pressant des briques pour que cette école-là soit bien construite et que nos enfants, qui étudient actuellement dans de mauvaises conditions, puissent étudier dans de bonnes conditions. Ça, c'est un de deux. Nous demandons aussi à l'État congolais de pouvoir, après la construction de cette école, nous doter d'un équipement, des bancs pupitres, des tableaux. Les enfants restent à même la terre, puisqu'il n'y a pas de bancs pupitres.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, le dernier bilan officiel des tragiques inondations, principalement dans la région de Durban, sur la côte est, fait état de 443 morts, a déclaré hier dimanche le ministre de la province du KwaZulu-Natal lors d'une conférence de presse. 63 personnes sont toujours portées disparues.
L'invité.
Comme annoncé, notre invité est le professeur Jean-Louis Sambo, doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa et juge au Conseil d'État. Il s'exprime au regard de la loi sur la montée du discours de haine et du tribalisme sur l'espace public congolais depuis quelque temps, ainsi que leurs conséquences. Le professeur Jean-Louis Sambo est interrogé par Alain Young.
Professeur Jean-Louis Sambo, bonjour. Le président de la République l'a dit, on observe de plus en plus sur l'espace public congolais la montée des discours de haine et de tribalisme. Au regard de la loi, comment peut-on définir ces deux concepts?
Bonjour Alain. Le tribalisme en soi n'est pas une mauvaise chose parce que le tribalisme signifie tout simplement l'appartenance d'un individu ou d'un groupe d'individus à un groupe social et qui se retrouve au niveau de sa tribu. Mais l'usage que l'on fait du tribalisme, c'est ce qui pose problème et qui peut amener le législateur à pouvoir organiser un certain nombre de réprimandes à l'endroit des auteurs des actes de tribalisme. Ainsi, si le tribalisme ou l'usage de la tribu est fait dans le sens de stigmatiser un individu ou un groupe d'individus n'appartenant pas à sa tribu, à les dénigrer, à proférer des propos injuriés ou menaçants, ou à menaçant son intégrité physique, dans ce cas-là, le tribalisme est condamné par la loi. Notre loi pénale réprime le tribalisme et il y a des peines qui sont prévues par rapport aux actes de tribalisme.
Le président de la République a demandé à plusieurs ministres, notamment celle de la justice, pour avoir un arsenal de mesures légales afin de réprimer les auteurs de ces messages. Est-ce que la législation congolaise est à ce jour dans ce domaine?
La législation congolaise, notamment le code pénal, réprime le tribalisme. Mais il me semble que la répression du tribalisme par le code pénal apparaît de plus en plus insuffisante au regard de l'ampleur que prend le phénomène. Parce que lorsque on utilise mal ou on fait mal l'usage du tribalisme, cela peut amener à l'extermination d'une tribu et cela peut constituer un génocide ou un crime contre l'humanité. C'est comme ça que j'ai pris connaissance d'une proposition de loi qui est déjà en discussion au niveau de l'Assemblée nationale, proposition faite par l'honorable Garni Sakata, qui vise la répression un peu plus forte du tribalisme, à partir d'abord de l'auteur du tribalisme, de ses complices et de ses co-auteurs, mais également toute personne qui bénéficierait de l'acte du tribalisme. Et dans cette proposition de loi dont j'ai pu avoir connaissance, il y a trois dimensions de la question qui sont abordées. C'est vrai, il y a la dimension répressive, il y a également la dimension préventive et la dimension pédagogique qui vise à conscientiser les Congolaises et les Congolais à ne pas recourir aux actes de tribalisme pour exterminer ou démystifier une tribu.
Qu'en est-il du discours de haine?
Le discours de haine est de plus en plus ressenti dans notre pays, surtout dans le domaine politique à l'approche des échéances électorales. On l'a vécu en 2006, on l'a encore vécu en 2011 et cela s'est amplifié en 2018 lorsque on prend la tribu comme cible pour s'attaquer à une autre tribu ou les gens appartenant à une autre tribu. Généralement, le discours de haine qui sont proférés par les auteurs, qui ne se rendent peut-être pas compte des conséquences que cela peut advenir, mais ce sont les conséquences qui font qu'un discours apparemment innocent au départ peut être à la base de beaucoup d'effets démystificateurs, notamment ça peut amener à des guerres entre communautés, ça peut amener à des conflits communautaires, ça peut amener à des actes qui enfreignent la loi pénale. Et dans ce cas-là, je crois que les pouvoirs publics doivent avoir à l'esprit l'idée qu'ils doivent s'assumer pour éviter cela.
Professeur, pour vous, en tant que juriste, quel conseil vous donneriez à tous les Congolais qui vous suivent?
Je voudrais d'abord m'adresser aux politiciens. Il n'est pas acquis au départ que l'appartenance à une tribu ou l'usage d'un discours tribal soit une garantie pour accéder aux fonctions publiques ou aux mandats électifs. Donc cela n'est pas un acquis. Et donc pour moi, il va falloir que le débat politique soit un débat loyal, soit un débat équilibré, soit un débat qui tienne compte de sa position, mais aussi la position des autres, parce que vos droits s'arrêtent là où commence le droit des autres. Ça ne sert à rien d'inciter les gens à la haine tribale, ça ne sert à rien d'inciter les gens à la xénophobie. Et même si notre arsenal juridique paraissait insuffisant pour réprimer ces actes-là, ce sont des actes qui sont réprimés par la justice internationale, notamment la Cour pénale internationale. Donc, les gens qui se livrent à ce genre d'actes, ils ne se rendent pas compte que même si on peut avoir des difficultés au niveau interne de pouvoir les poursuivre, mais sur le plan international, ils sont dans une situation fragile qui peuvent les amener à des situations qui ne seraient peut-être pas souhaitables.
Professeur Jean-Louis Essambo, merci.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.